impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Où bourreaux et victimes en mêlent leur récit »
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas. »
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs des impromptus, dans le cadre de nos lectures des correspondances du XXe siècle, nous avons choisi pour vous quelques extraits de « Lettres à D, histoire d'un amour » de André Gorz. André Gorz, de son véritable nom Gérard Horst, est né à Vienne en 1923 d'un père juif et d'une mère catholique. Il se marie à Paris en 1949 à une Anglaise prénommée Dorine. Il sera naturalisé français en 1954. Philosophe du social, il publie « L'essai » en 1955 et « Le traître » préfacé par Sartre en 1958. Il fait partie de l'équipe des temps modernes et fonde en 1964 le Nouvel Observateur avec Jean Daniel et quelques autres. Aujourd'hui, âgé de 83 ans, André Gorz éprouve le besoin de redire à sa femme à quel point ce compagnonnage intellectuel et amoureux a participé de son œuvre. La passion amoureuse, dit-il, est une manière d'entrer en résonance avec l'autre, corps et âme, et avec lui ou elle seule. Nous sommes en deçà et au-delà de la philosophie.
Tu vas avoir 82 ans. Tu as rapetissé de 6 cm. Tu ne pèses que 45 kilos. Et tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait 58 ans que nous vivons ensemble et je t'aime plus que jamais. Je porte de nouveau au creux de ma poitrine un vide dévorant que seul comble la chaleur de ton corps contre le mien. J'ai besoin de te redire simplement ces choses simples avant d'aborder les questions qui depuis peu me taraudent. Pourquoi es-tu si peu présente dans ce que j'ai écrit, alors que notre union a été ce qu'il y a de plus important dans ma vie? Pourquoi ai-je donné de toi dans Le Traître une image fausse et qui te défigure? Ce livre devait montrer que mon engagement envers toi a été le tournant décisif qui m'a permis de vouloir vivre. Pourquoi alors n'y est-il pas question de la merveilleuse histoire d'amour que nous avions commencé de vivre 7 ans plus tôt? Pourquoi ne dis-je pas ce qui m'a fasciné en toi? Pourquoi t'ai-je présenté comme une créature pitoyable qui ne connaissait personne, ne parlait pas un mot de français, se serait détruite sans moi, alors que tu avais ton cercle d'amis, faisais partie d'une troupe de théâtre lausannoise et étais attendue en Angleterre par un homme décidé à t'épouser? Je n'ai pas réalisé vraiment l'exploration en profondeur que je me proposais en écrivant Le Traître. Il me reste à comprendre, a clarifié beaucoup de questions. J'ai besoin de reconstituer l'histoire de notre amour pour en saisir tout le sens. C'est elle qui nous a permis de devenir qui nous sommes, l'un par l'autre et l'un pour l'autre. Je t'écris pour comprendre ce que j'ai vécu, ce que nous avons vécu ensemble.
Notre histoire a commencé merveilleusement, presque comme un coup de foudre. Le jour de notre rencontre, tu étais entouré de trois hommes qui prétendaient te faire jouer au poker. Tu avais une abondante chevelure au burn, la peau nacrée et la voix au perché des Anglaises. Tu étais fraîchement débarqué d'Angleterre, et chacun des trois hommes tentait, dans un anglais rudimentaire, de capter ton attention. Tu étais souveraine, intraduisiblement witty, belle comme un rêve. Quand nos regards se sont croisés, j'ai pensé, je n'ai aucune chance auprès d'elle. J'ai su par la suite que notre hôte t'avait prévenu contre moi. He's an Australian Jew, totally devoid of interest. Je t'ai croisé un mois plus tard dans la rue, fasciné par ta démarche de danseuse. Puis un soir, par hasard, je t'ai vu de loin qui quittait ton travail et descendait la rue. J'ai couru pour te rattraper. Tu marchais vite. Il avait neigé. La bruine faisait boucler tes cheveux. Sans trop y croire, je t'ai proposé d'aller danser. Tu as dit oui. Why not? Simplement. C'était le 23 octobre 1947.
Nous n'étions pas pressés. J'ai dénudé ton corps avec précaution. J'ai découvert, coïncidence miraculeuse du réel avec l'imaginaire, l'Aphrodite de Milo devenue chair. L'éclat nacré de ta gorge illuminait ton visage. J'ai longuement contemplé, muet, ce miracle de vigueur et de douceur. J'ai compris avec toi que le plaisir n'est pas quelque chose qu'on prend ou qu'on donne. Il est manière de se donner et d'appeler le don de soi de l'autre. Nous nous sommes donnés l'un à l'autre entièrement. Avant de te connaître, je n'avais jamais passé plus de 2 heures avec une fille sans m'ennuyer et le lui faire sentir. Ce qui me captivait avec toi, c'est que tu me faisais accéder à un autre monde. Les valeurs qui avaient dominé mon enfance n'y avaient pas cours. Ce monde m'enchantait. Je pouvais m'évader en y entrant, sans obligation ni appartenance. Avec toi, j'étais ailleurs, en un lieu étranger, étranger à moi-même. Tu m'offrais l'accès à une dimension d'altérité supplémentaire, à moi qui ai toujours rejeté toute identité et ajouté les unes aux autres des identités dont aucune n'était la mienne. En te parlant en anglais, je faisais mienne ta langue. J'ai continué jusqu'à ce jour à m'adresser à toi en anglais, même quand tu répliques en français. L'anglais, que je connaissais principalement par toi et par les livres, a été dès le début pour moi comme une langue privée qui préservait notre intimité contre l'irruption des normes sociales ambiantes. J'avais l'impression d'édifier avec toi un monde protégé et protecteur. La chose n'aurait pas été possible si tu avais eu un fort sentiment d'appartenance nationale, d'enracinement dans la culture britannique. Mais non, tu avais à l'égard de tout ce qui est british un recul critique qui n'excluait pas la complicité avec ce qui vous est familier. Je disais de toi que tu étais une « export only », c'est-à-dire un de ces produits réservés pour l'exportation et introuvables en Grande-Bretagne même.
Tu n'avais aucune place à toi dans le monde des adultes. Tu étais condamnée à être forte parce que tout ton univers était précaire. J'ai toujours senti ta force en même temps que ta fragilité sous-jacente. J'aimais ta fragilité surmontée. J'admirais ta force fragile. Nous étions l'un et l'autre des enfants de la précarité et du conflit. Nous étions faits pour nous protéger mutuellement contre l'une et l'autre. Nous avions besoin de créer ensemble, l'un par l'autre, la place dans le monde qui nous a été originellement déniée. Mais pour cela, il fallait que notre amour soit aussi impact pour la vie.
Au cours des 3 mois qui ont suivi, nous avons envisagé de nous marier. J'avais des objections de principe, idéologiques. Je tenais le mariage pour une institution bourgeoise, considérais qu'il codifiait juridiquement et socialisait une relation qui, pour autant qu'elle était d'amour, liait 2 personnes dans ce qu'elles avaient de moins social. Le rapport juridique avait tendance, et même avait pour mission de s'autonomiser vis-à-vis de l'expérience et des sentiments des partenaires. Je disais aussi, qu'est-ce qui nous prouve que dans 10 ou 20 ans, notre pacte pour la vie correspondra aux désirs de ceux que nous serons devenus? Ta réponse était imparable. Si tu t'unis avec quelqu'un pour la vie, vous mettez vos vies en commun et omettez de faire ce qui divise ou contrarie votre union. La construction de votre couple est votre projet commun. Vous n'aurez jamais fini de le confirmer, de l'adapter, de le réorienter en fonction de situations changeantes. Nous serons ce que nous ferons ensemble. C'était presque du Sartre. En mai, nous étions parvenus à une décision de principe. Je l'ai communiquée à ma mère en la priant de nous envoyer les documents nécessaires. Elle a répondu en m'envoyant une expertise graphologique qui établissait que nous avions, toi et moi, des caractères incompatibles. Je me souviens du 8 mai. C'est le jour où ma mère est arrivée à Lausanne. J'avais décidé que nous irions la trouver ensemble à son hôtel à 4 heures. Tu t'es assise dans le hall de l'hôtel pendant que j'allais prévenir ma mère. Elle était allongée sur le lit avec un livre. « Je suis venue avec Dorine, ai-je dit. Je veux te la présenter. »« Qui est Dorine ?» a demandé ma mère. « Qu'est-ce que j'ai à faire avec elle ?»« Nous allons nous marier. » Ma mère était hors d'elle. Elle a fait valoir toutes les raisons pour lesquelles ce mariage était hors de question. « Elle t'attend en bas, ai-je dit. Tu ne veux pas la voir ?»« Non. »« Alors, je m'en vais. »« Viens, on part, t'ai-je dit. Elle ne veut pas te voir. » »« Tu as à peine eu le temps de ramasser tes affaires que ma mère, très grande dame, descendait l'escalier en s'exclamant « Dorine, ma chère, comme je suis heureuse de faire enfin ta connaissance !» Ton aisance souveraine, sa distinction affichée. Comme j'ai été fière de toi devant cette grande dame qui se vantait de l'éducation qu'elle avait donnée à son fils. Comme j'étais fière de ton mépris pour les questions d'argent qui, pour ma mère, était un obstacle rédhibitoire à notre union.
Tu t'étais unie, disais-tu, avec quelqu'un qui ne pouvait vivre sans écrire. Et tu savais que celui qui veut être écrivain a besoin de pouvoir s'isoler, de prendre des notes à toute heure du jour ou de la nuit, que son travail sur le langage se poursuit bien après qu'il a posé le crayon et peut prendre totalement possession de lui à l'improviste, au beau milieu d'un repas ou d'une conversation. Si seulement je pouvais savoir ce qui se passe dans ta tête, disais-tu parfois devant mes longs silences rêveurs. Mais tu le savais pour avoir même toi-même passé par là. Un flux de mots cherchant leur ordonnancement le plus cristallin. Des bribes de phrases continuellement remaniées. Des aurores d'idées menaçant de s'évanouir si un mot de passe ou un symbole ne réussit pas à les fixer dans la mémoire. « Aimer un écrivain, c'est aimer qu'il écrive, disais-tu. Alors écris. » Nous ne soupçonnions pas qu'il me faudrait encore 6 ans pour finir l'essai. Aurais-je persévéré si je l'avais su ? J'en suis sûr, dis-tu. Ce n'est pas ce qu'il écrit qui est le but premier de l'écrivain. Son besoin premier est d'écrire. Écrire, c'est-à-dire se faire absent du monde et de lui-même pour, éventuellement, en faire la matière d'élaboration littéraire. Ce n'est que secondairement que se pose la question du sujet traité. Le sujet est la condition nécessaire, nécessairement contingente de la production d'écrit. N'importe quel sujet est le bon, pourvu qu'il permette d'écrire. Pendant 6 ans, jusqu'en 1946, je tenais un journal. J'écrivais pour conjurer l'angoisse. N'importe quoi. J'étais un écriveur. L'écriveur deviendra écrivain quand ce besoin d'écrire sera soutenu par un sujet qui permet et exige que ce besoin s'organise en projet. Nous sommes des millions à passer notre vie à écrire sans jamais rien achever ni publier. Et tu avais toi-même passé par là. Tu savais, dès le début, qu'il te faudrait protéger mon projet indéfiniment.
C'est à la rue du Bac que tu es devenu pleinement toi-même. Tu as changé ta voix virginale de petite anglaise, la voix que n'a cessé de cultiver Jane Birkin, entre autres, en une voix posée et grave. Tu as réduit le volume de ta superbe chevelure dans laquelle j'aimais enfouir mon visage. Tu n'as conservé qu'un soupçon d'accent anglais. Tu lisais Beckett, Sarraute, Butor, Calvino, Pavès. Tu suivais les cours de Claude Lévi-Strauss au Collège de France. Tu as voulu apprendre l'allemand et as acheté les livres nécessaires. Je t'en ai empêché. Je ne veux pas que tu apprennes un seul mot de cette langue, t'ai-je dit. Je ne parlerai plus jamais l'allemand. Tu pouvais comprendre cette attitude de la part d'un Austrian Jew. Nous avons fait ensemble presque tous les reportages que j'ai réalisés en France et à l'étranger. Tu m'as rendu conscient de mes limites. Je n'ai jamais oublié la leçon qu'ont été pour moi les 3 jours passés à Grenoble avec Mendès France. C'était un de nos tout premiers reportages. Nous avons pris nos repas avec Mendès, visité avec lui ses amis, assisté à ses entretiens avec les notables de la ville. Tu savais que parallèlement à ces entretiens, j'allais discuter avec des militants sédétistes pour qui les grands patrons grenoblois n'incarnaient pas précisément les forces vives de la nation. Tu as beaucoup insisté pour que Mendès lise mon reportage avant que je l'envoie. Il t'en a été reconnaissant. Si vous publiez ça, m'a-t-il dit, je ne pourrai plus remettre les pieds dans cette ville. Il semblait plus amusé que fâché, comme s'il trouvait normal qu'à mon âge et à ma place, je préfère le radicalisme au sens des réalités politiques. J'ai réalisé ce jour-là que tu avais plus de sens politique que moi. Tu percevais des réalités qui m'échappaient, faute de correspondre à ma grille de lecture du réel. Je suis devenue un peu plus modeste. J'ai pris l'habitude de te faire lire mes articles et manuscrits avant de les remettre. Je tenais compte de tes critiques en maugréant « Pourquoi faut-il que tu aies toujours raison ?»
C'est rue du Bac que j'ai écrit les 3/4 du Traître et les 3 essais suivants. Tu as souvent dit que ce livre m'a transformé à mesure que je l'écrivais. Après l'avoir terminé, tu n'étais plus les mêmes. Je pense que tu te trompais. Ce n'est pas de l'écrire qui m'a permis de changer. C'est d'avoir produit un texte publiable et de le voir publié. Sa publication a changé ma situation. Elle m'a conféré une place dans le monde. Elle a conféré une réalité à ce que je pensais, une réalité qui excédait mes intentions, qui m'obligeait à me redéfinir et à me dépasser continuellement pour ne devenir le prisonnier ni de l'image que les autres se faisaient de moi, ni d'un produit devenu autre que moi par sa réalité objective. Magie de la littérature. Elle me faisait accéder à l'existence en tant même que je m'étais décrit, écrit dans mon refus d'exister. Ce livre était le produit de mon refus, était ce refus, et par sa publication, m'empêchait de persévérer dans ce refus. C'est précisément ce que j'avais espéré et que seule la publication pouvait me permettre d'obtenir. Être obligée de m'engager plus avant que je ne le pouvais par ma solitaire volonté, et de me poser les questions, de poursuivre des fins que je n'avais pas définies tout seul.
Je parlais de toi sur un ton d'excuse, comme d'une faiblesse. Cette remarque dans Le Traître prend maintenant tout son sens. Manifestement, je tenais pour une faiblesse, dans ce que j'écrivais au moins, l'attachement que tu me manifestais. François Herval, à cette époque, m'a dit une fois « Vous avez une fixation révolutionnariste. » Tu observais avec inquiétude et par moments avec colère mon évolution pro-communiste. En même temps, tu me faisais aimer l'expansion de notre espace privé, de notre vie commune. Une notation de Kafka dans son journal peut résumer mon état d'esprit d'alors. « Mon amour de toi ne s'aime pas. » Je ne m'aimais pas de t'aimer. Quand Le Traître est enfin sorti, j'étais redevenu conscient de ce que je te devais. Tu as tout donné de toi pour m'aider à devenir moi-même. La dédicace que j'ai inscrite dans ton exemplaire dit « À toi, dite Kay, qui, en me donnant toi, m'a donné je. » Si seulement j'avais développé ça dans ce qui est devenu mon livre.
En 1973, tu travaillais aux éditions Galilée à la mise sur pied d'un service des droits étrangers. Tu allais le gérer pendant 3 ans. Les fins de semaine, nous allions pique-niquer sur le chantier de notre future maison. Tout nous unissait, mais ta vie était gâchée par des contractures et des maux de tête inexpliqués. Ton kiné te soupçonnait d'être hyper nerveuse. Ton médecin, après de vains examens, t'a prescrit des tranquillisants. Les tranquillisants t'ont déprimé au point qu'à ton propre étonnement, il t'arrivait de pleurer. Tu n'en as plus jamais pris depuis. Nous sommes allés à Cuernavaca l'été suivant. J'y ai étudié la documentation qu'Illich avait réunie en vue de sa némésis médicale. Il était entendu que je ferais des articles à la sortie de ce livre. Le premier article était intitulé « Quand la médecine rend malade ». La majorité des gens estimeraient aujourd'hui qu'il énonçait des évidences. À l'époque, seules 3 lettres de médecins ne l'ont pas attaqué. L'une d'elles était signée Courte Payenne. Elle soulignait la différence entre syndrome et maladie et défendait une conception holistique de la santé. Je suis allé voir ce médecin quand ton état de santé s'est aggravé dramatiquement. Tu ne pouvais plus t'allonger tant ta tête te faisait souffrir. Tu passais la nuit debout, sur le balcon ou assise dans un fauteuil. J'avais voulu croire que nous avions tout en commun, mais tu étais seule dans ta détresse. Sur la radio de tout le rachis tête comprise qu'il t'a fait faire, le docteur Courte Payenne a constaté la présence de billes de produits de contraste disséminées dans le canal rachidien des lombaires jusqu'à la tête. Ce produit, le lipiodol, t'avait été injecté 8 ans plus tôt avant quand ton père d'une hernie discale paralysante. J'ai entendu le radiologue qui te rassurait « Vous allez éliminer ce produit dans les 10 jours ». Au bout de 8 ans, une partie du liquide était montée dans les fosses crâniennes. Une autre partie s'était enkystée au niveau des cervicales. C'est à moi que Courte Payenne a communiqué son diagnostic. Tu avais une arachnoïdite. Il n'existait aucun traitement pour cette affection évolutive.
Tu n'avais plus rien à attendre de la médecine. Tu refusais de t'habituer à la prise d'antalgique et d'en dépendre. Tu as décidé de prendre toi-même en main ton corps, ta maladie, ta santé. De prendre le pouvoir sur ta vie au lieu de laisser la technoscience médicale prendre le pouvoir sur ton rapport à ton corps, à toi-même. Tu as pris contact avec un réseau international de malades qui s'entraident en échangeant informations et conseils après s'être heurté, comme toi, à l'ignorance et parfois à la mauvaise volonté du corps médical. Tu t'es initié au yoga. Tu prenais possession de toi en gérant tes douleurs par d'antiques autodisciplines. La capacité de comprendre ton mal et de te prendre en charge te paraissait le seul moyen de ne pas être dominé par lui et par les spécialistes qui te transformeraient en consommatrice passive de médication. Ta maladie nous ramenait sur le terrain de l'écologie et de la technocritique. Mes pensées ne te quittaient pas quand j'ai préparé pour le journal un dossier sur les médecines alternatives. La technomédecine m'apparaissait comme une forme particulièrement agressive de ce que Foucault allait plus tard appeler le biopouvoir, du pouvoir que les dispositifs techniques prennent jusque sur le rapport intime de chacun à soi-même. 2 ans plus tard, nous avons été invités une seconde fois à Cuernavaca. Nous devions aller ensuite à Berkeley, puis à La Jolla, près de San Diego, chez Marcuse. J'ai pris à ton insu une photo de toi, de dos. Tu marches, les pieds dans l'eau, sur la grande plage de La Jolla. Tu as 52 ans, tu es merveilleuse. C'est une des images de toi que je préfère. J'ai longuement regardé cette photo à notre retour, quand tu m'as dit que tu te demandais si tu n'avais pas un cancer. Tu te le demandais déjà avant notre départ aux États-Unis, mais n'avais pas voulu me le dire. Pourquoi ? Si je dois mourir, je voulais voir la Californie avant, m'as-tu dit tranquillement. Ton cancer de l'endomètre n'avait pas été détecté lors des examens annuels. Le diagnostic posé, la date de l'opération fixée, nous sommes allés pour 8 jours dans la maison que tu avais conçue. J'ai inscrit ton nom dans la pierre avec un burin. Cette maison était magique. Tous les espaces avaient une forme trapézoïdale. Les fenêtres de la chambre donnaient sur la cime des arbres. La première nuit, nous ne dormions pas. Chacun écoutait le souffle de l'autre. Puis, un rossignol s'est mis à chanter et un second, plus loin, à lui répondre. Nous nous sommes très peu parlé. Je passais la journée à bêcher et levais de temps en temps les yeux vers la fenêtre de la chambre. Tu t'y tenais, immobile, le regard fixé au loin. Je suis sûre que tu travaillais à apprivoiser la mort pour la combattre sans crainte. Tu étais si belle et résolue dans ton silence que je ne pouvais imaginer que tu puisses renoncer à vivre.
À ta sortie de la clinique, nous sommes retournés dans notre maison. Ton entrain me ravissait et me rassurait. Tu avais échappé à la mort, et la vie prenait un sens nouveau et une nouvelle valeur. Ilitch a immédiatement compris cela quand tu l'as revu quelques mois plus tard au cours d'une soirée. Il t'a longuement regardé dans les yeux et t'a dit « Vous avez vu l'autre côté ». Je ne sais pas ce que tu as répondu, ni ce que vous vous êtes dit d'autre, mais il m'a dit ces mots aussitôt après. Ce regard, je comprends maintenant ce qu'il représente pour toi. Il nous a invités une nouvelle fois dans sa maison à Cuernavaca, en ajoutant que nous pourrions y rester aussi longtemps qu'il nous plairait. Tu avais vu l'autre côté. Tu étais revenu du pays d'où on ne revient pas. Cela avait changé ton optique. Nous avions pris la même résolution sans nous consulter. Un romantique anglais l'a résumé en une phrase. « There is nowhere but life. »
23 ans se sont écoulés depuis que nous sommes partis vivre à la campagne. Dans ta maison, d'abord, qui dégageait une harmonie méditative. Nous ne l'avons goûté que pendant 3 ans. Le chantier d'une centrale nucléaire nous en a chassés. Nous avons trouvé une autre maison. Très ancienne, fraîche en été, chaude en hiver, avec un grand terrain. tu aurais pu y être heureuse. Là où il n'y avait qu'un pré, tu as créé un jardin de haies et d'arbustes. J'y ai planté 200 arbres. Pendant quelques années, nous avons encore voyagé un peu. Mais les vibrations et secousses des moyens de transport, quels qu'ils soient, te déclenchent des maux de tête et des douleurs dans tout le corps. L'arachnoïdite t'a obligé à abandonner petit à petit la plupart de tes activités favorites. Tu réussis à cacher tes souffrances, nos amis te trouvent en pleine forme. Tu n'as cessé de m'encourager à écrire. Au cours des 23 années passées dans notre maison, j'ai publié 6 livres et des centaines d'articles et entretiens. Nous avons reçu des dizaines de visiteurs venus de tous les continents et j'ai donné des dizaines d'interviews. Je n'ai sûrement pas été à la hauteur de la résolution prise il y a 30 ans de vivre de plein pied dans le présent, attentif avant tout à la richesse qu'est notre vie commune. Je revis maintenant les instants où j'ai pris cette résolution avec un sentiment d'urgence. Je n'ai pas d'ouvrage majeur en chantier. Je ne veux plus, selon la formule de Georges Bataille, remettre l'existence à plus tard. Je suis attentif à ta présence comme à nos débuts et aimerais te le faire sentir. Tu m'as donné toute ta vie et tout de toi. J'aimerais pouvoir te donner tout de moi pendant le temps qu'il nous reste. Tu viens juste d'avoir 82 ans. Tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait 58 ans que nous vivons ensemble et je t'aime plus que jamais. Récemment, je suis retombée amoureux de toi une nouvelle fois et je porte de nouveau en moi un vide dévorant que ne comble que ton corps serré contre le mien. La nuit, je vois parfois la silhouette d'un homme qui, sur une route vide et dans un paysage désert, marche derrière un corbillard. Je suis cet homme. C'est toi que le corbillard emporte. Je ne veux pas assister à ta crémation. Je ne veux pas recevoir un bocal avec tes cendres. J'entends la voix de Kathleen Ferrier qui chante « Je guette ton souffle, ma main t'effleure. » Nous aimerions chacun ne pas avoir à survivre à la mort de l'autre. Nous nous sommes souvent dit que si, par impossible, nous avions une seconde vie, nous voudrions la passer ensemble. 21 mars, 6 juin 2006.
Par cet hommage bouleversant, André Gors parvient à faire la synthèse entre l'homme et le philosophe. En guise de conclusion, écoutons-le dans une récente interview au journal Le Monde évoquant son livre « Le vieillissement », écrit alors qu'il n'avait que 38 ans. Dans « Le vieillissement », j'avais compris qu'il faut accepter d'être fini, d'être ici et nulle part ailleurs, de faire ça, et pas autre chose, maintenant, et non jamais ou toujours, d'avoir cette vie seulement, vivre avec Dorine, l'aimer, et aimer notre vie ensemble m'a appris cela. On sait qu'André Gors a hésité à publier ce livre. Nous le remercions de ces pages magnifiques. Si ces extraits vous ont donné envie de lire le livre dans son entier, nous vous rappelons le titre. Lettre à D, Histoire d'un amour. Publié en 2006 aux éditions Galilée. La musique qui a accompagné notre lecture a été composée par Dvorak. C'est un extrait du trio pour piano, violon et violoncelle. À bientôt pour de nouvelles lectures. Anne Pronot.
Marie Bérail.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 et la page d'accueil d'Impromptu littéraire. Vous nous y retrouverez.